Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la conférence résultats semestriels 2023 du groupe Chargeurs. Pour votre information, la conférence d'aujourd'hui est enregistrée et se tiendra uniquement en français. Pendant la durée de l'appel, vos lignes sont uniquement en mode écoute, mais vous aurez l'occasion de poser des questions à la fin de la présentation. Cela peut être fait en appuyant sur la touche étoile 1 du clavier de votre appareil pour enregistrer votre question. Si vous avez besoin d'aide, veuillez appuyer sur étoile 0 et vous serez connecté à un opérateur. Je confie maintenant la parole à Monsieur Olivier Bucquin, Directeur financier du groupe. Monsieur, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce call de présentation des résultats du premier semestre 2023 du groupe Chargeurs. Sans plus attendre, je passe la parole à Michael Fribourg, Président-Directeur Général de Chargeurs.
Bonjour, nous espérons d'abord que vous avez passé un bon été et on conçoit donc que tout le monde est maintenant en pleine reprise en ce mois de septembre. Comme toujours, ces présentations de mi-année sont l'occasion de faire un point non seulement sur l'activité, mais sur notre vision macroéconomique et sectorielle sur l'ensemble de nos métiers. Donc, nous essaierons d'être assez bref pour pouvoir vous laisser l'espace de questions et d'échanges et partager nos vues avec vous quant à l'environnement et quant aux opportunités de nos affaires. Je commencerai d'abord par faire quelques rappels. Alors évidemment, cette année 2023, sans surprise, est une année de transition. Alors elle est sans surprise une année de transition parce que un certain nombre de chocs se sont produits dans l'économie mondiale que tout le monde connaît, choc énergétique, choc inflationniste, choc des taux d'intérêt. Mais aussi, ces chocs sont un espace pour nous conquête de nouveaux marchés, d'accélération structurelle de certains métiers. Donc, ces chocs, en fait, impactent de façon assez asymétrique l'ensemble de nos métiers. Je rappelle d'abord que le chargeur d'aujourd'hui, c'est un groupe qui est diversifié géographiquement, diversifié sectoriellement. Aujourd'hui, nous avons des activités réunies au sein de deux pôles. Un pôle technologie, où nous avons deux leaders mondiaux, Chargeurs Advanced Materials. Je pense que nous reviendrons sur la situation de cette activité, qui est en fait la seule qui a en réalité été impactée par les chocs que j'ai mentionnés. Chargeurs PCC Fashion Technologies, qui est le numéro un mondial des textiles techniques pour le luxe et la mode, et qui, elle, se porte tout à fait bien et qui a parfaitement rebondi post-Covid. Et puis nous avons notre pôle luxe, qui est un pôle encore en gestation, mais avec aussi des dynamiques que nous avions espérées, que nous avions annoncées, et qui se sont réalisées, et qui continuent même de se réaliser, et vont continuer de se réaliser au-delà même de ce que nous avions imaginé. Je rappelle que cette activité, c'était 200 000 euros de chiffre d'affaires en 2018, et que cette année, ce sera 130 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est une dynamique qui est complètement validée. Donc, nous avons dans ce pôle luxe Chargeurs Museum Studio, nous avons Chargeurs Luxury Fibers, qui est aussi un métier qui s'est complètement réinventé au cours des dernières années. Et puis, nous avons les marques qui sont réunies au sein de Chargeurs Personal Goods et qui ont vocation à s'étendre. S'agissant de la diversité géographique, qui est un vecteur de la décorrélation partielle de nos métiers et de nos activités, je rappelle que l'Europe en facturation pèse 45% de nos facturations, l'Asie 28%, l'Amérique 27%. Dans un environnement mondial où les facturations directes et indirectes du groupe, par contre, sont d'abord lié au marché américain qui représente à peu près 40% des facturations directes et indirectes, ce qui fait que nous avons évidemment une vue en permanence sur la situation du marché américain, et c'est, je pense, très important pour l'ensemble des participants à cette conférence de bien le comprendre, puisque une part substantielle de l'activité, soit que nous réalisons en Asie, soit que nous réalisons en Europe, en fait, est liée à des clients finaux américains. Et ce n'est pas anodin dans l'analyse que nous faisons actuellement du marché. Le groupe a réalisé au premier semestre une performance qui était attendue en baisse par rapport à l'an dernier. D'abord parce qu'il y avait une base de comparaison en chiffre d'affaires qui était particulièrement inédite, notamment sur la branche Advanced Materials. Nous avons, je le rappelle, eu plusieurs années de suite des volumétries records, mais dans le même temps, nous avons aussi, au cours du premier semestre, eu des dynamiques contradictoires entre, d'un côté, tous les métiers hors CAM qui se sont bien portés ou qui ont eu même pour certains d'entre eux des dynamiques exceptionnelles, et puis CAM qui a été pénalisé, alors moins au deuxième trimestre qu'au premier trimestre, hein, qui était particulièrement significatif, ce qui montrait, et on l'avait dit, qu'il y avait des dynamiques qui s'amélioraient, même si les mouvements sont erratiques. L'EBITDA ressort un peu en dessous de 25 millions d'euros, le résultat opérationnel à 14,1 millions d'euros. Bon, on n'est clairement pas dans les échelles normatives ni que nous visons, ni qui sont celles que le groupe démontre ordinairement, mais il y a un choc et nous l'avons absorbé avec néanmoins des métiers qui, à travers les cycles et à travers ces chocs, restent toujours dans le vert, ce qui est déjà quand même satisfaisant pour des métiers à forte empreinte industrielle. Ceux qui ont sous les yeux la slide numéro 5 remarquent que nous avons quand même quelques sites de production au niveau mondial, que nous avons quelques collaborateurs. Je tiens quand même à souligner que dans cet environnement, nous restons profitables, que nous continuons d'investir dans nos talents, dans nos équipements, dans nos sites. Nous continuons de construire l'avenir et le potentiel stratégique de l'ensemble de nos métiers. Je crois qu'il y a un certain nombre de groupes et de métiers qui, soit durant le Covid, soit même durant les circonstances courantes, eux ont perdu de l'argent, ont dû faire des plans d'ajustement des effectifs. Ce n'est absolument pas la situation dans laquelle nous avons nos métiers. Parce que nous avons, et c'est la slide numéro 6, un modèle d'affaires qui est flexible et offensif, qui mise sur le levier opérationnel, avec à la fois un portefeuille de métiers qui est protecteur, je le disais, des métiers qui restent dans le vert même quand ils subissent de très fortes chutes de leur volume. On l'a eu sur Fashion Technologies, je rappelle qu'on a eu jusqu'à moins 35% de volume durant le Covid sur le pôle Fashion Technologies, et nous ne perdions pas d'argent, et le métier a ensuite mis 18 mois à se redresser, trimestre après trimestre, avec quelques erratismes, mais aujourd'hui, on voit bien que 18 mois après les grandes phases de Covid, le métier est dans non seulement des niveaux de performance qui sont tout à fait satisfaisants, des niveaux de chiffre d'affaires qui se sont redressés, mais en plus, des niveaux de marge brute qui matérialisent notre pricing power. Deuxièmement, Advanced Materials. Bon, là, tout le monde a vu l'impact de l'environnement et du choc, de deux chocs successifs. Le choc énergétique d'abord, puis ensuite le choc de la hausse des taux d'intérêt qui a impacté toute une série de filières industrielles. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Qui a impacté négativement les volumes. Les filières industrielles que nous servons, je tiens à le mentionner d'emblée, attention, ce ne sont pas que des filières qui sont liées à l'immobilier. La construction résidentielle, c'est moins de 25% des débouchés du métier. Le reste, ce sont d'autres segments d'activité qui, eux, sont et ont vocation à être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins impactés. Passer un peu le choc psychologique des acteurs économiques par l'effet de la hausse des taux d'intérêt, ce qui nous rend quand même assez confiants et qui nous donne des éléments d'appréciation et d'hypothèse sur les segments prioritaires qui auraient vocation ou qui pourraient avoir vocation à se redresser le plus vite au sein d'Advanced Materials. Museum Studio, je pense que c'est un des gros succès récents du groupe. Beaucoup étaient sceptiques sur la capacité de déploiement de ce pôle d'activité. C'est un pôle qui fait cette année, qui fera cette année 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. On ambitionne plus de 150 millions l'an prochain. Nous avons 3 à 4 ans de visibilité sur le carnet de commandes, des niveaux de marge qui vont, avec la reconnaissance progressive du chiffre d'affaires, se fortifier. Donc on est très satisfait de ce métier qui aussi est un élément de dynamique sur l'avenir. Luxury Fibers voit son activité autour de la traçabilité des fibres s'intensifier avec énormément de contrats qui sont signés chaque mois. Là aussi, c'était un pari économique et industriel à coût maîtrisé que nous avions engagé et qui portait ses fruits. Et puis, les activités de Personal Goods aussi sont dans une très très bonne dynamique. Et donc, on en ressort avec un ensemble qui nous a permis de limiter au cours de ce premier semestre l'impact de la récession sur Advanced Materials, comme nous avions eu les années passées d'autres éléments qui soit avaient limité, soit avaient surcompensé l'impact des événements macroéconomiques. Si nous allons slide 7, métier par métier, donc vous voyez qu'Advanced Materials a un résultat opérationnel qui est à 4 millions d'euros. Alors ça inclut des surcoûts temporaires d'énergie en début d'année, à peu près pour 3 millions d'euros, donc c'est quand même pas significatif, qui ensuite se sont totalement normalisés parce que nous avions des contrats extrêmement prudents et flexibles. L'incertitude énergétique qui environnait le métier quand nous avons démarré l'exercice 2023 ne se répliquera pas quand nous démarrons l'exercice 2024, simplement parce que nous avons dès à présent un certain nombre de protections tarifaires sur les conditions d'accès à l'énergie. Donc on est beaucoup plus confiant sur ce paramètre, mais d'ailleurs nos clients, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a nos clients derrière qui eux-mêmes ont davantage de protections, donc je pense que là aussi il y a eu un choc assez temporaire, mais même avec son niveau d'activité de premier semestre, l'EBITDA généré par Advanced Materials couvrait deux fois ses besoins en investissement de développement. Donc on est tout à fait dans une épure d'un métier qui quand même quand c'est difficile, reste dans le vert et au-delà de ses besoins de renouvellement d'investissement. PCC Fashion Technologies a fait un très bon semestre, avec un très bon niveau de marge d'EBITDA, un excellent niveau de marge brute. La croissance de la marge brute est un très très bon signal dans l'environnement actuel. Nous avons dans le même temps accompagné le renforcement des talents, des équipes, des organisations mondialement sur ce métier pour aller capter des nouveaux segments d'activité, notamment autour des vêtements non formels, des vêtements de loisirs, qui sont un segment très technique et très porteur. Et nous avons le pôle luxe qui, lui, a une croissance brute de 16% avec Museum Studio, je l'ai mentionné, qui se porte très bien. Luxury Fibers qui voit ses revenus de service s'accélérer, ce qui fait que son résultat opérationnel n'est pas impacté malgré l'impact d'un cyclone qui a affecté les flux commerciaux sur l'hémisphère sud, et puis Personal Goods qui fait son bonhomme de chemin. Ce qu'on voit, c'est que d'une certaine façon, les autres métiers ont compensé à peu près un peu plus de la moitié de la moindre performance de Advanced Materials. Et donc, non pas qu'on se satisfasse de simples effets de compensation, on veut que tous les moteurs soient allumés dans le même sens, mais voilà, on a un portefeuille d'actifs diversifiés et nous les développons et chacun aussi a ses cycles et ses rythmes. Si bien que dans ce premier semestre, c'est la slide suivante, nous nous sommes adaptés, nos métiers se sont adaptés à un nouvel environnement. Nous avons pu translater surcoûts inflationnistes et industriels à nos clients. L'impact que nous avons sur la rentabilité n'est pas du tout le fait de l'inflation, il est uniquement le fait des effets volume sur CAM, comme je l'ai mentionné, de l'impact temporaire de l'énergie sur les mois de janvier à mars. Nous observons que nos clients quand même ont des stocks qui sont assez, dans l'ensemble de nos activités industrielles, assez faibles. Et donc tout le monde s'est mis dans des modèles assez lean. Si nous allons slide 9, nous avons essayé de résumer un peu un certain nombre de matriciellement de situations et d'évolutions de situations par rapport à l'an dernier. Si nous nous comparons à il y a un an, Advanced Materials en termes de conjoncture voit cette situation comme étant moins défavorable avec un contexte plus transitoire, tandis que nos autres métiers sont dans des dynamiques soit prometteuses, soit déjà assez fortes. Une fois dit ça, la demande structurelle, y compris sur l'activité CAM, mais sur l'ensemble de nos activités, est forte. Alors, on le mesure comment ? Par exemple, sur CAM, on voit une très très forte augmentation des co-développements de nouveaux produits avec les clients, ce qui veut dire que nos clients s'apprêtent à lancer eux-mêmes des nouveaux produits, lancement qu'ils avaient pour un certain nombre d'entre eux différé pendant la phase Covid, où soit il y a eu des effets de contraintes logistiques, soit différés de lancement produit parce qu'ils avaient de l'euphorie sur leur demande de produits existants. Mais ça, pour nous, c'est un point important. Le pricing power, beaucoup autour de cette table connaissent notre pricing power. Et puis, nous avons continué d'augmenter l'efficacité de nos organisations, ce qui est un mouvement qui se poursuit. Voilà. Je terminerai juste, avant de passer la parole à Olivier Buquin, par un peu notre vision pour 2024, c'est-à-dire la slide 11. Nous sommes, pour l'exercice 2024, prudents, mais quand même, on a des éléments qui tendent à penser qu'il ne nous semble pas déraisonnable d'estimer que pour 2024, Advanced Materials pourrait renouer avec son chiffre d'affaires de 2022, puisque 2022 était un premier semestre excellentissime et record, suivi d'un second semestre qui, lui, était beaucoup plus faible et atypiquement faible, en volume comme en chiffre d'affaires et en mix. Deuxièmement, nous anticipons une forte dynamique persistante sur l'ensemble des autres activités, chacune dans leur domaine. Nous allons poursuivre bien sûr la stratégie d'optimisation de la performance opérationnelle, mais il est évident que la normalisation progressive que nous attendons, avec toutes les hypothèses de prudence bien sûr qui conviennent sur CAM, nous conduisent à raisonnablement estimer que 2024 devrait être un millésime où nous devrions avoir plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, une marge d'EBITDA entre 9 et 10 millions, une solide génération entre 9 et 10% et une solide génération de cash. Sur ce premier semestre, nous estimons que il y a un certain nombre de points bas qui ont été dépassés. Pour autant, il y a encore des mouvements erratiques, donc on reste assez prudent. Nous voyons que aussi nos clients eux-mêmes commencent à préparer solidement le rebond de leurs activités. Nous avons durant ce semestre aussi, c'est la slide 12, conclu un certain nombre d'initiatives assez fortes pour préparer l'avenir. Nous avons conclu des accords en Arabie Saoudite pour Museum Studio et Charger Advanced Materials, ouvert le nouveau flagship de Swain qu'un certain nombre d'entre vous avaient eu l'occasion de voir en partie avant son ouverture au cours des mois passés. Et puis nous avons continué de faire un certain nombre de lancements de produits de performance dans l'ensemble de nos activités. Voilà, je passe la parole à Olivier Buquin pour la revue opérationnelle et financière plus détaillée. Et je vous retrouve pour les questions.
Merci, Michael. Je vous invite donc à passer à la page 16 de cette présentation. Vous voyez sur cette page la diminution du chiffre d'affaires du groupe qui est principalement liée, on l'a dit, à la contraction des ventes chez Charger Advanced Materials, chez CAM. Mais vous voyez aussi que nos nouveaux moteurs de croissance, et en particulier Museum Studio, compensent en partie cette contraction, ce qui, encore une fois, valide notre modèle diversifié. Alors, c'est particulièrement visible au T2, comme l'indique cette slide, avec une forte dynamique du pôle luxe. Nous rappelons également dans cette slide la répartition géographique de notre activité, donc équilibrée entre les principaux continents, ce qui est un facteur supplémentaire de répartition des risques. Si nous allons maintenant à notre pôle technologie, et en particulier à Charger Advanced Materials, page 18, je vous rappelle que le premier semestre 2022 avait constitué, et j'allais dire d'assez loin, un record historique des ventes. Et c'est donc par rapport à ce record que notre chiffre d'affaires diminue de 23%, ce qui évidemment n'est pas satisfaisant, mais qui encore une fois mérite d'être considéré par rapport à un très haut. Alors cette baisse est le résultat, on l'a dit, d'une combinaison de facteurs, un niveau élevé de stocks qui ont été constitués par nos clients dans les années 2021-2022, c'est-à-dire post-Covid, pour faire face aux perturbations de la supply chain mondiale, C'est dû également à un contexte macroéconomique qu'on connaît tous, qui est très difficile après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le retour de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, la crise énergétique, et un ensemble de facteurs qui donc impactent nos clients qui sont des entreprises industrielles. Je citerai également la crise économique en Chine et la crise de l'immobilier. Alors, malgré tout cela, malgré cette baisse prononcée du chiffre d'affaires et l'impact de la crise énergétique sur nos coûts de production, un impact qu'on a rappelé d'environ 3 millions d'euros, eh bien le métier reste rentable avec un résultat opérationnel de plus de 4 millions d'euros, ce qui est évidemment le résultat de l'abaissement du point mort que nous avons réalisé ces dernières années et de la flexibilisation de notre dispositif industriel et logistique. Alors, pour la période à venir, nous restons prudents, mais nous faisons l'hypothèse d'un redressement progressif de l'activité, un redressement progressif qui devrait s'appuyer sur nos principaux débouchés hors construction de logements neufs. Ces marchés représentent à peu près 75% de nos débouchés. Et quels sont ces marchés? Eh bien, vous avez les équipements industriels, la rénovation des bâtiments, les équipements de mobilité, l'électroménager, l'électronique haut de gamme, ou bien encore les infrastructures. Donc tous ces marchés sont soutenus, seront soutenus également par des plans de relance publique, ou aussi par les pouvoirs d'achat élevés de leurs clients, et présentent donc des perspectives positives. Ce qu'il faut également noter, c'est que sur ces marchés, CAM a un positionnement premium, a des parts de marché élevées, a ses meilleures valeurs ajoutées et donc sera bien placé pour tirer parti du redressement à venir. Si nous allons maintenant page 19 et les chiffres de CFT-PCC, nous les avons présentés hors de l'activité healthcare. Celle-ci a été opérationnellement rattachée à la division mais n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au premier semestre 2023 parce que la crise sanitaire évidemment n'a plus la même ampleur, contrairement au premier semestre 2022. Donc hors healthcare, CFT-PCC a réalisé un chiffre d'affaires quasiment stable en organique par rapport au premier semestre 2022, qui lui-même avait bénéficié d'une forte dynamique post-Covid. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que cette dynamique post-Covid, elle n'était pas mondiale, puisque même encore aujourd'hui, certaines zones géographiques n'ont pas encore retrouvé leur niveau pré-pandémie, ce qui évidemment constitue un potentiel d'amélioration additionnelle pour ce métier. CFT-PCC continue de consolider ses parts de marché, continue de se développer, notamment sur des segments en pleine croissance comme l'outwear et le sportswear, avec des gammes très innovantes, durables et de plus en plus demandées par nos clients. La marge d'EBITDA au-dessus des 10% est stable par rapport à l'année dernière. Le taux de marge opérationnelle continue d'augmenter, ce qui démontre la qualité du portefeuille produit et client de ce métier, ainsi que sa productivité malgré la crise énergétique qui lui a coûté à peu près 1 million d'euros, et sa capacité à répercuter la hausse des intrants vers ses clients. C'était le pôle technologie. Passons maintenant au pôle luxe, qui est en croissance de plus de 16% par rapport au premier semestre 2022. Et tout d'abord, Chargeur Museum Studio en slide 21. Chargeur Museum Studio affiche une très forte croissance, de près de 70% de son chiffre d'affaires en brut et près de 50% en organique. Le reste de la progression est lié à l'acquisition de Skira, la maison d'édition emblématique italienne que nous avons achetée en juillet 2022. Je rappellerai, pour éclairer la perception des performances actuelles et à venir de cette activité, j'en rappellerai le phasage qui permet au métier d'augmenter progressivement sa rentabilité, avec d'ores et déjà un ROPA qui a plus que doublé par rapport au premier semestre 2022. La séquence des dernières années, donc avant le Covid, nous avons gagné de nombreux projets. Les entreprises que nous avons progressivement achetées ont gagné de nombreux projets, dont les principaux se sont terminés, on va dire, en 2022. Là c'était avant le Covid, puis pendant la crise sanitaire, en 2020-2021, pour des raisons tout à fait pratiques, nos clients ont moins lancé de projets.
Cependant, le marché a redémarré fin 2021 et depuis cette période, nous avons gagné de très nombreux projets de toute taille, et ça évidemment grâce à notre stratégie leadership mondiale. Et notre carnet de commandes, solide et en augmentation, nous donne de la visibilité dans ce métier. Compte tenu du mode de fonctionnement de notre marché et de la comptabilisation prudente du chiffre d'affaires et des marges à l'avancement, les projets que nous avons gagnés depuis 18 mois porteront leur plein effet à partir de la fin 2023 et naturellement en 2024-2025. Nous avons créé le leader mondial du secteur par les acquisitions réalisées depuis 2018. Nous en améliorons chaque jour l'efficacité opérationnelle et la force de frappe commerciale. Et Michael Fribourg a rappelé il y a un instant des initiatives comme la mise en place d'un partenariat avec de grands groupes en Arabie Saoudite qui nous permettra d'accélérer notre développement dans ce métier au Moyen-Orient et en Asie. En tout état de cause, nous devrions réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 120 millions d'euros cette année et approcher les 150 millions d'euros en 2024. Si nous évoquons maintenant Chargeur Luxury Fiber, en slide 22, l'activité du métier est certes en baisse par rapport en 2022 et en raison principalement des perturbations qui ont été produites par un cyclone qui a frappé la Nouvelle-Zélande en début d'année. Pour autant, le résultat opérationnel des activités, comme le taux de marge opérationnelle, continue d'augmenter. Et cela parce que nous poursuivons la transformation progressive du business model de cette activité avec le développement continu de l'offre Nativa. Nous avons lancé cette offre fin 2017. Elle a lentement progressé jusqu'au Covid et depuis le Covid, elle fait l'objet d'une demande toujours croissante de grandes marques, toutes les grandes marques, j'allais dire, du marché viennent nous voir pour conclure des accords de services et d'achat de laine durable et traçable, qu'est la laine Nativa. Nous avons déjà des accords avec de grands groupes français ou internationaux, Gucci, Decathlon, Vivienne Westwood, etc. Et d'autres seront prochainement annoncés. Personal Goods en page 23 est un nouveau métier qui a vocation à regrouper les marques B2C de luxe de notre groupe. Le chiffre d'affaires de 4 100 000 comprend les ventes d'Altès Studio et de Cambridge Satchel. Ces entités n'étaient pas consolidées au premier semestre 2022. Elles sont en croissance à deux chiffres grâce à la montée en gamme d'Altès Studio et grâce au développement commercial de Cambridge Satchel. Nous voulons signaler aussi l'événement notable du semestre qui est l'ouverture donc de notre flagship store de Swain à Londres qui renforce évidemment considérablement la visibilité de la marque. Donc voilà pour la revue opérationnelle. Passons maintenant à la revue financière avec en page 24 le compte de résultat du groupe. Je ne reviens pas sur le chiffre d'affaires dont on a abondamment parlé. Je vais dire un mot sur la marge brute. Elle est en baisse, 25,2% contre 26,4%, impactée par la moindre contribution de CAM qui vient de la baisse des volumes. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que hors healthcare, elle est quasiment stable, ce qui veut dire que les nouveaux moteurs de croissance compensent quasiment intégralement la baisse du taux de marge brute de CAM, ce qui est un point tout à fait remarquable et lié notamment au pricing power et à l'efficacité opérationnelle de ces métiers. L'EBITDA s'établit à 24,9 millions, le ROPA à 14,1 millions, et l'ensemble des métiers, répétons-le, y compris Chargeur Advanced Materials, étant rentable. En dessous du ROPA, je vais signaler quelques éléments. Les amortissements d'actifs incorporels liés aux acquisitions, les PPA, sont stables pendant cette période. Les éléments non récurrents sont limités à 1,8 million et c'est le reflet de charges non récurrentes modérées. L'augmentation des charges financières, elle s'explique principalement d'une part par la hausse du coût de l'endettement net, qui est liée à la hausse des taux d'intérêt. Elle s'explique d'autre part par les effets de l'hyperinflation en Argentine où nous avons une partie de nos activités. Enfin, le compte de résultat fait apparaître un gain de 6,5 millions au titre de l'impôt, qui résulte essentiellement de déficits reportables que le groupe a activés
pour refléter l'amélioration des perspectives d'activité et de profit des entités françaises, qui sont des entités essentiellement exportatrices. Bon, bien évidemment, il s'agit de l'impôt comptable, puisque en ce qui concerne l'impôt cash, le groupe a payé et paiera bien évidemment des impôts en 2023 dans chacune des juridictions où il est implanté. Pour conclure le compte de résultat, le résultat net part du groupe s'élève à 3,3 millions, soit un bénéfice net dilué par action de 14 centimes. En page 25, notre tableau de flux de trésorerie reflète une marge brute d'autofinancement de 6,9 millions qui a été naturellement pénalisée par la moindre contribution de CAM, une augmentation de 3,2 millions de la fraction du BFR liée à l'activité, ce qui est une hausse très maîtrisée dans un contexte inflationniste qui mécaniquement, comptablement, augmente la valeur des stocks. Le niveau de stock de CAM a été réduit. Il reste bien sûr plus élevé que le niveau normatif et il se réduira mécaniquement lors du redémarrage de l'activité. En tout état de cause, le ratio BFR sur chiffre d'affaires reste à un niveau très bas et dans les plus bas des comparables de groupes qui ont des activités du même ordre que les nôtres. Le cash flow opérationnel s'élève à 4 millions, contre 0,3 en 2022. Le groupe reste donc cash positif, même dans une période très perturbée, comme celle que nous avons traversée. Le niveau de CAPEX a été modéré à 8,2 millions. L'année dernière avait été particulièrement basse, mais nous tenons, et Michael Fribourg l'a rappelé, par ces investissements, à poursuivre notre politique d'amélioration permanente de la productivité et de l'efficacité énergétique de nos actifs. Je pense que c'est important de souligner les deux aspects, productivité et efficacité énergétique, et ça évidemment pour l'essentiel dans le pôle technologie. Nous avons également dans ce tableau de flux de trésorerie des compléments de prix sur des acquisitions antérieures pour un peu plus d'un million, la distribution du dividende en numéraire pour 8,6 millions, et enfin un poste haute qui correspond principalement au remboursement de la dette de location à hauteur d'un peu plus de 4 millions. Donc notre dette nette s'établit à 194,4 millions au 30 juin, reste à un niveau maîtrisé malgré la diminution de l'EBITDA. En page 26, pour terminer cette revue financière, un aperçu à la fois du bilan solide et de notre structure de financement. Le bilan traduit une stabilité de nos immobilisations incorporelles et corporelles, une augmentation des autres actifs et passifs nets qui correspondent pour l'essentiel à l'activation d'impôts, que j'ai évoqué il y a un instant, la stabilité du BFR total, et puis une diminution des capitaux propres qui est due d'un côté à l'effet des dividendes versés en numéraire et de différences de conversion liées à l'appréciation du dollar, qui ont été en partie compensées par le résultat net du premier semestre. Donc la dette nette à 194,4 millions reste à un niveau maîtrisé malgré la diminution de l'EBITDA. Le ratio de levier qui est à 3,5 fois au 30 juin diminuera naturellement mécaniquement lors du redémarrage de l'activité de CAM. Au passage, je rappelle que notre documentation bancaire ne prévoit pas, ne comprend pas de covenant de levier. Le seul covenant que nous avons concerne le gearing, avec un seuil à 1,2 fois l'EBITDA et nous étions à 0,7 fois, donc loin du seuil du covenant au 30 juin. Donc le groupe a une structure financière, comme vous pouvez le voir, qui est à la fois solide et très flexible. Nous avons une maturité moyenne de nos financements au 30 juin de 2,9 années et nous disposions à cette période de plus de 270 millions de ressources financières disponibles. Pour conclure, je voudrais rappeler, comme on l'a annoncé lundi dernier, et c'est la slide 27, que nous continuons, je dirais, de travailler en permanence notre structure de financement pour accroître à la fois sa solidité, sa flexibilité, sa liquidité et sa maturité. Donc on travaille sur l'ensemble de ces aspects. Et dans cet esprit, et depuis le 30 juin, nous avons à la fois prolongé les échéances de nos lignes, des lignes RCF de notre crédit syndiqué. Nous avons prolongé les échéances de certaines de nos lignes bilatérales et nous avons levé une nouvelle ligne bilatérale auprès d'une banque internationale de premier plan qui rejoint nos partenaires bancaires. Donc l'ensemble de nos banques partenaires, anciennes et nouvelles, ont confirmé leur confiance dans les performances du groupe et ses perspectives de création de valeur, ce qui est évidemment un signe fort dans la perspective d'incertitude que traverse notre monde. Avec ces opérations, nous avons une maturité moyenne de nos financements de 3,2 années. Je répondrai avec plaisir à vos questions dans un instant, mais je repasse évidemment la parole à Michael Fribourg pour la conclusion de cette présentation.
Bien, merci beaucoup Olivier. Comme chacun le voit, dans un environnement qui est perturbé et dans certains segments défavorable, le groupe continue de conduire sa transformation avec un accent mis sur les leviers de la croissance organique actuelle et future, avec une flexibilité opérationnelle très forte et avec une conversion sales to profit to cash qui est dans l'ADN de la maison et qui se matérialise encore dans ce contexte semestriel. Nous faisons, donc je le disais, l'hypothèse d'un niveau de chiffre d'affaires à plus de 800 millions d'euros dès l'an prochain, avec une marge d'EBITDA plus en retour vers nos standards et nos normes, voire meilleures si le contexte se stabilise. Le sentiment global que nous avons, c'est que l'économie enchaîne toute une série de chocs, pas seulement les marchés financiers, mais aussi l'économie réelle. Bon, pas à pas, finalement, ces chocs s'absorbent. Le choc de l'énergie, il a été globalement absorbé. Le choc de l'inflation dans un certain nombre de territoires hors d'Europe est absorbé, ou certains territoires étaient déjà familiers d'un contexte inflationniste. Et puis, il y a là beaucoup de commentaires sur la situation du marché immobilier et du marché de la construction, ou la conséquence de la hausse des taux d'intérêt. Aussi là encore la situation est hétérogène selon les géographies. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que Chargeur était présent dans une centaine de pays. Nous avons toujours en permanence des zones où il y a des crises et des zones où il y a de l'euphorie ou des zones où il y a une situation normale. Nous naviguons avec ces atouts on va continuer à avancer et à accélérer. Nous avons pu démontrer au cours des dernières années que les différents chocs globaux de l'économie, le Covid en a été un exemple, l'inflation en a été un autre exemple, n'heurtent pas en fait notre modèle de déploiement. Après, la conjoncture est une chose, ce qui est important, c'est la création de valeurs fondamentales à moyen et long terme, et Chargeur est accompagné par un actionnaire familial de long terme qui aussi a une vision extrêmement forte sur la capacité de différenciation d'un acteur comme Chargeur dans des marchés de niche à forte valeur ajoutée et compter sur nous pour continuer à le faire longtemps. Bien, nous passons la parole peut-être à l'assistance pour répondre aux questions.
Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question ou faire un commentaire sur la conférence d'aujourd'hui, appuyez sur étoile 1 du clavier de votre appareil. Pour annuler votre question, appuyez sur étoile 2. La première question nous vient de la part de Pierre-Yves Gauthier de la société Alpha Value. Please, allez-y, c'est à vous.
Bonjour, Michael, bonjour donc Olivier. Deux questions techniques pour commencer. La première concerne les frais financiers et l'indication sur laquelle il y a une partie de mécanique inflationniste en Argentine. Est-ce que vous pourriez donner un peu le détail du poids des frais financiers hors situation d'inflation en Argentine? Et évidemment, nous expliquer un peu ce qui se passe là-bas, enfin comment ça transite dans les comptes de Chargeur. La deuxième question porte sur le pricing power de CAM. On a quand même l'impression que la montée en gamme extrêmement régulière permettrait au groupe d'augmenter ses prix, même sur des volumes en recul. Et j'ai pas l'impression que Advanced Materials ait vraiment utilisé ce levier-là pour défendre un petit peu ses marges, alors qu'on entend dire au travers de toutes les industries finalement que les prix sont allés beaucoup plus vite que la réalité de la hausse des coûts. Voilà, c'est les deux questions, j'en aurais d'autres, mais je crois qu'il faut laisser un peu la parole aussi aux autres.
Oui, Pierre-Yves, alors je vais répondre sur CAM, Olivier va vous répondre dans le détail sur la maîtrise des frais financiers. Sur le pricing power, dans les résultats de CAM a augmenté, enfin CAM d'abord est l'opérateur déjà qui est le plus cher du marché, c'est ça, son impact de leadership. Oui, effectivement, les nouveaux développements que nous avons correspondent à des produits qui, au mètre carré, pour résumer, valorisent mieux que les produits historiques. Une fois dit ça, bon, l'impact, là, on ne le voit pas nécessairement, ou en tout cas, l'impact est plus marginal, tout simplement parce que CAM a eu un effet volume extrêmement négatif. Donc, l'effet volume extrêmement négatif a absorbé finalement l'impact marginal des nouveaux produits. Quand on met sur le marché des nouveaux produits, ils mettent 2-3 ans à commencer à représenter une masse critique. Pour autant, nous avons augmenté les prix encore cette année, en début d'année, mais aussi on a augmenté nos prix en cohérence avec l'augmentation des intrants que nous avions. Mais depuis, et ça, bon, c'est peut-être un signal à l'industrie, en tout cas, nous, depuis le 2 janvier, on n'a pas d'augmentation de nos prix de revient industriels. En dehors du cas de l'énergie, qui était un cas un peu temporaire, le reste, on n'a pas de hausse de prix sur nos intrants. Donc, hors innovation, on n'a pas de raison spécifique d'augmenter les prix vis-à-vis de nos clients. On ne va pas nous-mêmes alimenter la machine inflationniste pour rien. En sens inverse, le fait que nous n'observions pas de hausse des prix des intrants industriels est peut-être plutôt un bon signal, puisqu'on est quand même, nous, dans Advanced Materials, sur une activité qui est très amont par rapport aux phases de cycle. Généralement, on a des ralentissements et on voit des ralentissements ou des accélérations 6-8 mois avant le reste de l'économie. Donc, ça voudrait dire que, normalement, l'inflation devrait se calmer dans beaucoup de filières. Alors, on le voit pas au niveau macro encore, parce qu'il y a des augmentations de prix, parce qu'il y a sans doute aussi beaucoup de spéculation, mais on n'a pas ça en tout cas, nous, dans nos filières. On a augmenté et on continue d'augmenter les prix, mais là, quand même, la performance du premier semestre, c'est un effet volume. Faut pas chercher à sophistiquer l'interprétation de la chose. C'est pour l'essentiel, c'est un effet volume. C'est sur l'impact chiffre d'affaires. C'est un effet volume. Je passe la parole à Olivier. J'espère avoir répondu à votre question. Je passe la parole à Olivier pour le volet frais financiers.
Oui, alors Pierre-Yves, en fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que l'évolution des frais financiers entre 22 et 23 est liée pour l'essentiel à la hausse du coût de l'endettement net, hein, qui passe, pour être précis, de 6,6 millions à 10 millions. Évidemment, c'est lié à la hausse des taux d'intérêt. Et puis, à l'impact de l'hyperinflation en Argentine. Donc il y a une situation qui est très spécifique, hein, qui correspond à une norme bien spécifique de l'IFRS, qui est suivie de très près par nos équipes et les auditeurs, et qui s'est traduit par un impact négatif d'1,5 million dans les frais financiers pendant cette période.
D'accord, merci.
La question suivante nous vient de la part de Jérémy Salé de la société BNP Paribas. Allez-y, c'est à vous.
Bonjour à tous, vous m'entendez ?
Absolument. Oui,
alors j'ai trois questions de mon côté. La première, c'était sur CAM, concernant l'impact de la facture énergétique, les 3 millions d'euros. Je voulais bien comprendre, est-ce que ces 3 millions d'euros, du coup, ont été sur le S1 répercutés dans les prix de vente ? Et je voulais savoir si vous pouvez nous donner une idée du surcoût qui est attendu sur le S2.
Attendez, on va répondre tout de suite à celle-ci, parce que c'était extrêmement simple. En fait, le surcoût de 3 millions d'euros... correspond aux contraintes qu'il y avait avec les contrats. Nous avons des contrats d'énergie. On avait expliqué ça une ou deux fois. Nous avons pu mettre en place des contrats d'énergie où, pour faire simple, on peut acheter l'énergie de façon flexible à peu près tous les trimestres. Ce qui nous épargne de devoir fixer les prix de l'énergie à des niveaux élevés quand il y a un emballement ou une spéculation sur le marché de l'énergie. La contrepartie de ça, c'est que mécaniquement, nous étions contraints d'acheter de l'énergie à prix fort en janvier, février et une partie du mois de mars. Et donc, nous avions d'un côté une surcharge des prix de l'énergie, mais il faut le temps qu'elle se diffuse aux clients, qu'on a mis en place au cours du premier trimestre. De l'autre côté, on avait la charge. Donc, on a eu un écart, une différence par rapport à la surcharge nette qui représente effectivement à peu près 3 millions d'euros et là qui ne pouvait pas être répercuté aux clients puisque ça allait le temps de l'adaptation et nos clients eux-mêmes avaient pour certains d'entre eux la même problématique d'ailleurs, eux-mêmes avec leurs propres clients. Une fois dit ça, pour le reste des surcoûts énergétiques par rapport à 2022, eux, ils sont embarqués dans notre surcharge énergétique. Donc, vous pouvez considérer que c'est neutre.
Ok, très bien, c'est très clair. Parfait. Et alors, ma deuxième question, c'est concernant la partie...
On a mis en place ce dispositif, pour éviter, c'est quand même très très essentiel, pour éviter, il y a beaucoup d'industries qui sont cotées ou pas cotées d'ailleurs, mais il y a beaucoup d'industries qui ont dû conclure et qui ont été poussés même au crime d'acheter des contrats, d'acheter de l'énergie à des niveaux complètement records. Tout le monde leur disant « attention, ça va encore monter », etc. C'est un jeu extrêmement dangereux parce que si le prix de l'énergie baisse, vous, même si vous avez du pricing power, vous pouvez pas aller dire à vos clients « écoutez, on s'est mal débrouillé, on s'est fait pigeonner par les distributeurs d'énergie ». Et maintenant, à vous de payer la facture. Les clients, dans ce cas-là, disent, débrouillez-vous, c'est pour votre pomme. Et donc, pour éviter de pénaliser la compétitivité de CAM, comme de l'ensemble de nos activités industrielles, dans un contexte où il y aurait des baisses de l'énergie, et on voit bien qu'il y a de la volatilité très forte sur le marché de l'énergie, on a mis en place ces contrats flexibles avec ces surcharges. Donc, quand le prix monte, ça monte pour nos clients. Quand le prix baisse, ça rebaisse pour le client. C'est totalement transparent. C'est le dispositif que nous avons d'ailleurs dans la même façon pour le polyéthylène. On l'a répliqué en fait sur l'énergie, donc c'était un peu nouveau. Il fallait quand même aller convaincre les clients que c'était un schéma qui était équitable et raisonnable. Et nous avons préservé la compétitivité future et aussi nos marges futures. Et donc évidemment, quand les prix ont baissé, nous-mêmes, on s'est couvert avec des prix beaucoup plus bas. Pour le début 24. C'est pour ça que je disais, on est assez. On va démarrer 24 avec beaucoup plus de sérénité sur les coûts de l'énergie que nous en avions quand on a démarré 23. Mais donc c'est quand même un point là très très important parce que être le numéro un mondial et avoir du pricing power c'est une chose, mais il faut quand même être compétitif sur ces structures de coûts. Sinon vous perdez des parts de marché. Donc là, nous, on n'avait pas, on a préservé nos parts de marché, préservé notre compétitivité avec cet outil. Pardon, je passe à la deuxième question.
Merci beaucoup. Sur la deuxième question, c'était concernant Luxury Fiber. J'étais quand même surpris par l'amélioration de la marge compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires. Je comprends que c'est Nativa qui a aidé à améliorer la rentabilité. Est-ce que du coup, on pourrait avoir une indication de la contribution au chiffre d'affaires de Nativa et également de sa rentabilité?
Alors, on ne communique pas sur le chiffre d'affaires détaillé de Nativa pour des questions de confidentialité, mais par contre, il faut comprendre que Nativa, c'est deux choses, et donc vous allez tout de suite saisir, c'est que Nativa, c'est la vente de volume de laine avec un premium, donc on vend plus cher que la laine qui ne l'est pas, mais à chaque fois qu'on vend une tonne, en fait, on vend pas, c'est plutôt en milliers de tonnes, en centaines de tonnes plus exactement que l'enjeu se fait, mais à chaque fois qu'on vend des centaines de tonnes Nativa, à côté, nous vendons aussi et nous facturons des honoraires de service qui viennent accompagner la stratégie d'approvisionnement auprès de l'agriculture régénératrice et régénératif pour les clients. Donc, les clients nous facturons aux clients deux catégories. C'est le modèle product as a service, des honoraires, donc ça mécaniquement c'est peu de chiffre d'affaires mais beaucoup de rentabilité, et de l'autre côté la facturation de la matière première qui elle a un premium. D'où le fait qu'effectivement, ça on l'avait dit aussi, structurellement, le modèle de rentabilité de Nativa, de Luxury Fibers, va s'enrichir de l'accélération de ses revenus de services.
Très bien. J'ai mal à savoir, est-ce que c'est encore marginal, Nativa? Enfin, j'imagine que...
Non, c'est pas marginal, non, là, ça pèse plusieurs... on parle de... Ça doit peser un bon tiers, voire plus, de la rentabilité en termes de repas, si vous voulez. Dans le repas de Luxury Fibers, les revenus de service Nativa représentent déjà un bon tiers de la rentabilité de Luxury Fibers.
Ok, très bien. Merci. Et ma dernière question, c'est concernant le M&A. Il me semble que dans le communiqué, même dans la présentation, il n'y a plus mention du projet d'acquisition dans le luxe. Alors, est-ce que ça... Enfin, je voulais m'assurer que c'était toujours d'actualité, ou est-ce que ça veut traduire le fait qu'il n'y aura rien à attendre d'ici la fin de l'année et que ça sera plutôt sur 2024?
Non, c'est d'actualité, mais il n'y avait pas d'actualité du jour.
Okay, très bien. Merci beaucoup.
C'était pas l'actualité du jour, on va dire, voilà.
Ok.
Second rappel, si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1 du clavier de votre téléphone. La question suivante nous vient de la part de Eric Blin de la société Finance Connect. Allez-y, c'est à vous.
Oui, bonjour. Vous m'entendez?
Oui, on vous entend.
Bonjour. J'avais juste d'abord une précision. Vous dites que le chiffre d'affaires de CAM au premier semestre, la baisse est uniquement due au volume principalement. Il n'y a pas du tout de hausse de prix year to year?
Alors, si, il y a eu des hausses de prix, un peu, bien sûr, notamment pour les motifs que j'ai mentionnés. Mais la baisse de chiffre d'affaires de CAM, ce que je disais, pour avoir les grandes masses, l'essentiel, on peut considérer qu'à peu près 80% de la baisse de chiffre d'affaires, elle est liée d'une part à l'effet volume et d'autre part à l'effet mix. Parce que, ça c'est très très important à avoir en tête, c'est que les segments de très forte rentabilité de CAM, sont ceux qui ont eu les baisses de volume les plus importantes.
Donc l'immobilier?
Non, c'est pas nécessairement. Alors, pour donner un peu une réponse, considérant que vous posez une deuxième question, quelles sont les applications de CAM? Alors, c'est très important de les comprendre. Puisqu'il y a une crise de l'immobilier, donc nous-mêmes on décortique ce qui se passe dans les applications de CAM.
Et France ou international?
Mondial, mondial. Vous parlez de, enfin là ce que je vous décris est mondial. CAM, son chiffre d'affaires en France c'est 5%, enfin donc notre
D'accord.
échelle.
Okay.
Ce qui se passe en France, franchement, CAM s'en fiche, c'est pas un enjeu. Nous on raisonne monde. La France c'est cacahuète. Alors, on a plus les problèmes de la régulation française, de l'absurdité de la régulation française, que les avantages du commerce français. Bon. Alors, sur CAM, la construction résidentielle, donc des logements pour des familles, représente, notre estimation, c'est que ça représente directement et indirectement seulement 25% des débouchés de CAM. Par construction, mécaniquement, le segment le plus impacté par la crise immobilière, c'est cette construction résidentielle. À côté de ça, les produits de CAM servent beaucoup d'autres filières. Alors, je vous donne quelques exemples. On les a rementionnés dans le communiqué de presse, d'ailleurs, pour que tout le monde l'ait bien en tête. Donc, vous avez le marché des équipements industriels. Je prends quelques minutes là-dessus. Vous avez le marché des équipements industriels. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire les machines-outils, les aménagements et équipements professionnels. Donc, vous achetez une machine-outil, la machine-outil utilise des matériaux de forte résistance, généralement assez haut de gamme, sur ces outils, vous avez du film de process vendu par CAM. Vous développez une cuisine industrielle, vous ouvrez un McDonald's, un KFC, voilà, vous avez une cuisine industrielle, vous ouvrez même un restaurant étoilé, etc. Vous avez une cuisine industrielle, vous avez là des mètres carrés et des mètres carrés de produits CAM à l'intérieur. Ces segments-là, en fait, ils sont pas impactés par la crise de l'immobilier telle qu'on l'entend. Nous-mêmes, on commande des équipements industriels, des machines, par exemple pour optimiser les coûts d'énergie ou pour accélérer notre productivité. Quand on les reçoit, il y a du film Novacell partout et du film CAM partout et on l'enlève. Et donc ça, c'est pas du tout lié à ce qu'on a mentionné. Ensuite, en lien avec l'habitat, nous avons le marché de la rénovation. Alors, généralement, quand les gens ne peuvent pas construire, ils rénovent. Il y a toujours un cycle d'adaptation. Et puis, en plus, en ce moment, il y a toute la thématique de la rénovation énergétique avec, pour le coup, dans plein de pays, des politiques de soutien. Et donc, d'un côté, il y a une crise de l'immobilier, mais de l'autre côté, si vous avez besoin d'un artisan pour vous réparer votre toiture, vous êtes obligé d'attendre un an. Donc, il y a ce paradoxe-là. Bon. Et donc là, c'est un segment qui devrait être à forte prise. Il y a le marché des équipements de mobilité, c'est-à-dire les voitures, les moyens de transport, l'aéronautique, les avions, les trains. Là aussi, vous avez sur à l'intérieur de ces... vous faites une rame de métro, à l'intérieur d'une rame de métro, il y a du film Novacell partout. Vous avez le marché de l'électroménager haut de gamme et grand public qui n'est pas nécessairement, les gens peuvent changer leur frigo sans nécessairement changer leur maison, mais en prime, les marchés auxquels nous on s'adresse, c'est plutôt une clientèle aisée. Vous avez le marché des infrastructures, donc vous créez une gare, une école, un bâtiment collectif, pareil, là vous avez des centaines de mètres carrés, CAM, vous faites un escalier roulant, vous avez du film CAM à tous les étages. Et puis, vous avez le marché des bâtiments industriels et logistiques. Ce marché-là, en dehors de cas de foncières qui ont spéculé n'importe comment, bah, ce marché-là, par exemple, avec l'IRA aux États-Unis, il y a des usines qui sont en train de se construire. Bah, quand il y a des usines qui se construisent, c'est extrêmement bon pour CAM. Donc, par contre, ce qui se passe sur l'ensemble de ces marchés, il se passe un phénomène aussi d'adaptation, de temps d'adaptation psychologique des acteurs économiques, parce que ce soit les acteurs publics ou les acteurs privés, ils étaient avec des taux d'intérêt nominaux qui étaient extrêmement faibles. En réalité, aujourd'hui, ils sont sans doute avec des taux d'intérêt réels qui sont négatifs, puisque l'inflation augmentait plus vite que les taux. Mais ils ont un temps d'adaptation aussi pour ajuster leur modèle, comme pour les industriels. Nous-mêmes, vous avez vu que, par exemple, on a poursuivi les investissements ce semestre, mais évidemment, on a fait là des investissements sur CFTPCC pour optimiser notre productivité et notre consommation d'énergie. Bon, d'abord, les machines, on nous les annonce pas avant la mi-2024, donc c'est qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui ont du business. Deuxièmement, nous-mêmes, on a eu un temps d'adaptation avant de dire, bah, est-ce qu'on valide, est-ce qu'on fait maintenant l'investissement ou pas, on voulait voir quelles étaient les tendances économiques. Donc, notre sentiment général, c'est que oui, il va y avoir une crise de l'immobilier. Les cassants vous disent que ce sera long. Voilà, il y a une phase d'adaptation des prix, de plein de choses. Bon, c'était devenu complètement fou, mais bon, il y a aussi deux phénomènes qui sont absolument indépassables. Il y a peut-être une crise de l'immobilier, mais il y a un déficit de logement, donc il va y avoir des enjeux de solvabilisation de la demande. Hein, c'est des situations qui se sont déjà produites. Et puis, de l'autre côté, il y a l'urbanisation et quand même, bon, le moteur d'activité de CAM, c'est pas les taux d'intérêt, hein. Le moteur d'activité fondamental et structurel de CAM, c'est l'urbanisation et la démographie. Bon, alors sauf à ce qu'il y ait une baisse de la démographie, une baisse de l'urbanisation, mais ça, on n'a pas vraiment de, il n'y a aucun élément qui permettrait d'étayer un tel changement. Qui est séculaire, eh bien, sauf ça, il y a les besoins des solutions CAM. Donc, voilà, si vous regardez, par exemple, Saint-Gobain, il vous explique que la situation du marché de la rénovation était extrêmement booming, malgré les taux d'intérêt. Alors même s'ils sont prudents, même s'ils font, ils ont fait aussi des volumes records là-dessus. Donc nous, il y a CAM subit l'effet, je pense aussi pas mal, de tempo d'adaptation psychologique de toute une série d'acteurs qui ont été très wait and see, dans les filières industrielles d'abord, puis bon, il y a le phénomène des taux d'intérêt, mais quand même, ce qui a été par exemple le premier vecteur du net repli d'activité sur le premier trimestre sur CAM, c'était la crise de l'énergie. Tout simplement, les clients disaient, à ces coûts d'énergie complètement délirants, est-ce que je peux encore produire ? Ils se posaient même pas la question des taux d'intérêt, ils disaient, est-ce que je peux encore produire ? Donc, comme vous l'avez vu, beaucoup ont dit, on va aller reproduire finalement aux États-Unis, développer des équipements aux États-Unis. Donc, c'est important sur CAM quand même de voir que la construction résidentielle, bon, en gros, tout le monde parle, quand les gens parlent d'immobilier, à 80-70%, ils parlent de ça. En fait, ce n'est que 25% des applications directes et indirectes de CAM.
Mais c'est ça qui explique votre prudence sur le second semestre, parce que CAM est en crise, enfin est en crise, façon de parler, crise remarquablement gérée, parce qu'avec des baisses de 20% des volumes, c'est pas évident, surtout compte tenu des coûts fixes. Mais ça a démarré au S2 2022, cette crise. Donc le S2 2022 était déjà fortement pénalisé en termes de marge opérationnelle. Le S1 l'est encore. On est au creux de la vague. Est-ce que dès le S2 2023, on peut espérer le rebond significatif, ou est-ce que effectivement la résidence, le côté résidentiel vous amène à une certaine prudence sur ce rebond?
Alors, je vais vous dire pourquoi on est prudent. On est prudent parce que, bon, d'abord, en fait, quand on discute avec l'ensemble de nos clients, qu'ils servent le marché résidentiel ou tous les autres marchés que j'ai mentionnés, eux-mêmes disent, bon, 2023, c'est une année martyr, ils se concentrent sur 2024. Pour être très clair, ils ont leur direction financière qui leur disent, soyez exigeants sur le BFR, ils sont, pour beaucoup, ils ont été wait and see. Au moment où on se parle, et c'est vrai aussi dans les marchés financiers que vous suivez, le matin, vous avez une information, l'après-midi, vous avez une autre information, et les deux sont interprétés de façon contradictoire. Donc, les opérateurs économiques et industriels sont dans cet environnement. Nous, ce qu'on constate, en tout cas, c'est qu'il y avait des incertitudes. Et je vais répondre complètement à votre question. C'est qu'il y avait des incertitudes début 2023, et au moment où on se parle, elles sont moindres. Est-ce que l'inflation continue à galoper? Les chiffres macro dans un certain nombre de pays montrent que non, ça ne galope plus. On n'est plus du tout. Je rappelle que au moment, à la même période l'an dernier, il y avait un certain nombre de territoires, soit de la zone euro, soit même en Angleterre, qui rencontraient des niveaux d'inflation, des rythmes d'augmentation des prix records depuis 30 à 40 ans. Plus du tout là-dedans. Bon, nous avions une situation sur les coûts de l'énergie qui était multipliée par 10. Bon, donc on n'est plus du tout là-dedans au moment où on se parle. Il y a quand même des effets de tempérance. Une fois dit ça, on est prudent parce qu'on voit que c'est quand même assez erratique et parce que nos clients sont réorganisés mondialement et que eux-mêmes sont prudents, ils veulent pas se retrouver avec des stocks. Nous-mêmes, on avait quand même beaucoup de stocks parce qu'il y avait eu une très forte dynamique de l'activité au premier trimestre, en fait, et dans la première partie du deuxième trimestre 2022. Après, pour les écouler, il faut quand même du temps. Donc aujourd'hui, les gens veulent pas avoir de stocks. Donc nos clients, ils ont plus de stocks. Ils n'ont plus du tout de stocks. Ce qui nous fait penser qu'au moment où ça va redémarrer, ça va même être une complexité parce que les lead times vont être extrêmement importants. Donc il va y avoir, ils vont devoir patienter. Mais voilà, tout le monde est assez prudent là-dessus. On a plutôt le sentiment que le point bas est passé en termes de volumétrie, mais je le dis encore, ça reste erratique. Donc une semaine ne fait pas l'autre, un jour c'est fantastique, un mois c'est très bien, un autre mois c'est plus prudent. Parce que les opérateurs en ce moment, ils essaient de s'ajuster, de s'adapter. Donc voilà, c'est quand même un fine tuning. Bon, maintenant nous, pour résumer les choses, la conjoncture est plus mauvaise, on reste profitable. On va regagner en dynamique de profit dès que le mouvement se sera un peu stabilisé et la situation sera un peu normalisée. On n'est pas, nous, dans une situation d'un groupe qui perdrait de l'argent sur ce métier et qui devrait se dire « Ah mince, comment j'ajuste mon point mort ?» Notre point mort est déjà très faible, la preuve. Donc, on n'a pas, voilà. Au lieu de s'obséder à quel jour l'activité va rebondir, on s'obsède sur ok, ben poussons les nouveaux produits, gagnons des parts de marché auprès des clients, profitons de cette situation pour faire des co-développements et accélérer des co-développements avec nos clients. Regardez ce qu'on a annoncé alors sur un autre segment que CAM durant l'été, le produit PeerFlex qu'on a lancé avec JC Deco. On en a accéléré le développement au moment où l'activité était moindre. Et donc, grand bien nous en a pris parce que ça nous permet de le lancer là, au moment où ça repart. Donc, vous voyez, c'est quand même notre stratégie. Nous, on se pose pas de questions, on n'a pas à se poser de questions de point mort. On se pose plutôt des questions de, il y a des phases, des cycles économiques. Il y a des cycles qui sont moins bons, il y a des cycles qui sont meilleurs. Mais ce qui est essentiel, c'est quand les cycles sont bons, de pouvoir capter le maximum de valeur. Et d'avoir des métiers plus forts.
La base du S2 2022 est quand même extrêmement faible. On est d'accord ou pas?
Oui, mais vous avez tout à fait raison. On est d'accord avec vous. Et sur cette base du S2, on peut même dire la chose suivante, c'est que c'est le T4 qui était extrêmement faible. Parce que l'économie européenne était à l'arrêt. Donc, on avait encore un effet report quand même de très haut niveau de commande sur le S2, puisqu'on avait à peu près 12 semaines de délai d'attente, donc ça fait 3 mois. Donc les clients qui avaient commandé encore en juin, en juillet, on avait encore un effet commande, puis eux-mêmes n'ajustaient pas encore leur stock. Ils disaient non, j'ai besoin de commande, je continue, et ils s'étaient fait peur avec le Covid sur les niveaux de stock. Il y a un problème de niveau de stock normatif et voilà, parce qu'ils n'ont pas de stock normatif assez élevé, mais vous avez tout à fait raison. La base de comparaison du T4 22, elle est record. C'est simple, on avait T1 22, une base de comparaison record à la hausse, et une base T4 22, record à la baisse. Alors là, donc vous avez tout à fait raison. Donc normalement, le T4 23 sera meilleur, bien sûr. Et là, notre T2 23, il est meilleur que le T1 23. Mais on dit juste, c'est erratique, donc on reste prudent parce que là, ça va dépendre aussi de la. Les carnets de commandes sont plus courts, donc on n'a pas 3 mois, 4 mois de visibilité sur le carnet de commandes. Là, c'est du consommable où les clients passent des commandes plus courtes. Donc on veut être, nous, prudents, mais prudents dans un contexte, c'est pas non plus un enjeu, considérable non plus, faut pas exagérer.
Il y a une autre chose qui inquiète les investisseurs, c'est les frais financiers. Le taux de la dette, vous pourriez nous dire un petit peu à quel niveau il se situe et nous donner une idée du montant du factoring déconsolidant au 30 juin et son évolution?
Alors le montant de factoring au 30 juin, je suis en train de le récupérer. Je regarde une bêtise. Pardonnez-moi.
Pendant ce temps-là, que je cherche, je réponds peut-être sur le sujet des frais financiers. Bon, on a fait un choix qui est d'avoir un volume de liquidité important dans un contexte où d'un côté on a des investissements et des ambitions et de l'autre côté il y a aussi de la volatilité du rationnement du crédit qui se fait à l'aune du taux de zéro. Il n'y a pas que la question des taux, il y a aussi la question du rationnement. Nous-mêmes, on a des financements qui sont assez longs, qui étaient à taux fixe. On a aussi des financements qui sont à taux variable. On a une part croissante de financements à taux variable. Maintenant, on n'a pas le sentiment de se financer à des coûts qui sont très élevés, mais bon, c'est un choix aussi d'autonomie et de flexibilité. Donc voilà. Alors là, ça pèse un peu plus, mais voilà, c'est un choix, si j'ose dire, de liquidité face à un environnement de risque. on pourrait avoir moins de liquidités et du coup on économiserait des frais financiers, mais en même temps on préfère sécuriser les liquidités, et donc il y a un coût de non-utilisation de ces liquidités qui sont aussi indexées sur le Euribor. En prime, on a, nous, déjà intégré des refinancements de lignes. On a déjà intégré nos refinancements futurs. Donc, on a réglé la visibilité de liquidité sur bien des années pour le groupe, comme Olivier l'a mentionné. Et donc, évidemment, bah, temporairement, mais c'est dans l'environnement où c'est plus agité que ça se relève plus, mais... C'est un choix. C'est un choix financier. Voilà, pour être très clair, c'est un choix financier. Mais c'est pas le taux n'est pas élevé. Le taux moyen, on est à combien?
On est autour de 5%.
Voilà.
5%.
Ouais. Pour le factoring des consolidants, on est à 66,5 millions, très précisément, au 30 juin.
D'accord. Et en fait, les commissions de factoring sont dans les frais financiers.
Absolument.
D'accord, ça explique le montant peut-être des frais financiers nets par rapport à la dette nette, quoi, j'entends. Et puis j'ai un dernier point, et je vous embête pas parce que j'en aurais trop d'autres questions à vous poser, mais on va parler de choses plus sympathiques. Le musée décolle, comme vous l'aviez dit. Dans votre discours, vous expliquez que vous faites des marges à l'avancement, que vous ferez des conclusions de marge sur la fin de vos contrats, principalement fin 2023, début 2024. Hein. Ça veut dire que la marge à ce moment-là va continuer à augmenter de manière significative. Le taux d'étiage de la marge opérationnelle, quand vous faites un contrat, vous visez quoi comme marge opérationnelle?
Enfin, c'est pas par contrat, parce que c'est un métier intégré, mais pour dire les choses, l'an prochain, on vise 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et... entre 9 et 10% de marge d'EBITDA. Donc, alors pourquoi? Parce que si on est en train d'investir sur l'appareillage, y compris humain, de structuration, pour accompagner la croissance organique. Et donc on arbitre entre optimiser la rentabilité et puis la mise en place d'équipes commerciales par zone, donc tout ça a un coût. Ce sont des investissements opérationnels, pour reprendre une expression qu'on emploie parfois. Mais donc voilà, on est à peu près sur cet étiage-là. Mais oui, vous avez raison, ça va monter, absolument. C'est juste.
Merci beaucoup. Et
juste pour que tout le monde comprenne, oui, c'est à l'avancement. Et puis vous avez des éléments de prudence que vous prenez à chaque étape. Là, on parle d'un métier qui a complètement changé, qui change complètement d'échelle en fait. Hein. C'est plus du tout le même. C'est un pôle en soi. Beaucoup se demandaient ce que ça allait devenir, mais c'est vraiment en train de devenir un pôle et un moteur. Il y a un moteur dynamique et sur lequel, en plus, on a pas mal de visibilité, puisque déjà, le fait d'avoir une très grosse visibilité sur le carnet de commandes, ça sécurise le métier pour les années qui viennent.
Mais à long terme, vous visiez une marge EBITDA plus élevée, on est bien d'accord.
Et on continue de la viser, c'est parce que la marge, par exemple, aux États-Unis, la marge est beaucoup plus élevée. En Europe, elle est un peu moins élevée. Donc, c'est pour ça qu'on organise le métier. Donc on vise toujours une marge opérationnelle à plus de 10% sur ce métier. Hein.
Ok. Merci beaucoup.
Ça n'a pas changé. C'est juste en train de se... Le phasing est en train de s'exécuter.
Merci.
Dernier rappel. Si vous souhaitez poser une question, veuillez appuyer sur étoile 1. Du clavier de votre appareil. La question suivante nous vient de la part de Pierre-Yves Gauthier de la société Alpha Value. Allez-y, c'est à vous.
Oui, je suis désolé, je ne veux pas m'empêcher de reposer des questions. Sur les musées, justement, dans les slides d'aujourd'hui, vous mentionnez une commande de la part de Carlsberg. J'imagine que c'est plutôt la fondation Carlsberg. Et la question derrière, c'est dans quelle mesure une partie de cette activité sera générée justement par des entités qui n'ont rien à voir avec le gouvernement, des villes ou des collectivités locales.
Alors, déjà aujourd'hui, en fait, 80% de l'activité n'a absolument rien à voir. Enfin, nos donneurs d'ordre ne sont pas des entités publiques, c'est des entités privées. Hein.
D'accord. Okay.
Au cas d'espèce de Carlsberg, ça rentre dans une catégorie qui se développe énormément, qui s'appelle le cultural branding. qui est entre la publicité et ce que fait CAM, hein, ce que fait CMS. Et du coup, pour faire simple, on a beaucoup d'entreprises qui nous commandent des musées, des programmes, des visiting centers, y compris Amazon par exemple, ou des, même des centres de formation. Hein. C'est nous qui réalisons les centres de formation d'Amazon en Europe.
Intéressant. Et donc ça, c'est une accélération d'histoire que vous notez là-dessus, ou c'est un...
ou ça plutôt, oui, absolument, oui, puisque le Studio France est même dédié à ça.
Entendu, merci.
Nous n'avons plus de questions, je vais donc donner la parole à notre hôte pour conclure la conférence d'aujourd'hui.
Très bien, bah écoutez, merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre intérêt pour Chargeur. Et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.
Merci d'avoir participé à la conférence d'aujourd'hui. Vous pouvez maintenant raccrocher.